l'icône est quelque chose de très 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 important pour la vie de l'Église tout entière. Bon. Et comme je vous ai expliqué au début, on a perdu cette importance parce qu'on a perdu l'expérience. Alors, avant ce 7e concile œcuménique, il y a eu un concile secondaire qui s'appelle le concile 6e-5e, le concile Quinisexte, et qui a promulgué, qu'est-ce que c'est le canon iconographique. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à l'époque, là, c'était bien avant l'iconoclasme, mais enfin, ils essayaient déjà de répondre à un certain nombre de critiques qui étaient formulées et qui iraient ensuite plus loin, dans le même sens. La peinture était trop charnelle, voilà, il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et donc, ils ont dit, il faut... Ils sont très, très, très laconiques. Ils disent d'abord, il faut peindre comme les anciens. Donc, on ne peut pas innover. Il faut peindre comme les peintres d'avant. Mais comme, c'est un comme, bon, il faut comprendre dans quel sens, bien sûr, mais quand même, il faut peindre comme les peintres anciens. Et ensuite, il faut montrer l'humilité du Christ, la gloire de Dieu le Verbe dans l'humilité du Christ. C'est-à-dire montrer ça, c'est-à-dire la divinité dans l'humanité. Cette gloire dans l'humilité de la nature humaine. Et il n'y a pas d'autre canon. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre règle. C'est la seule règle. Et pourquoi est-ce que les pères ont dit ça? Parce qu'à l'époque, tout le monde savait de quoi ils parlaient. C'est-à-dire qu'on savait parfaitement qu'est-ce que c'était la lumière. Comme je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être pas fait évident. Mais nous, on a perdu ça. On ne sait plus. Donc on est obligé de... Voilà, maintenant, il nous reste un gros, gros travail. Et donc, c'est pour ça que il faut que les iconographes, comment dire, ont une responsabilité absolument énorme. Et la compréhension juste de l'icône est quelque chose qui devrait être absolument au même titre que la théologie dogmatique, que les matières les plus importantes de l'Église devraient être enseignées de la même manière. Précisément parce qu'il faut retrouver, ce sens, bien sûr. Et il faut le faire comprendre. Et donc voilà, les peintres d'icônes ont sur leurs épaules une responsabilité énorme. C'est-à-dire que vous savez que c'est très très compliqué et très difficile, enfin, comment dire, c'est pas compliqué, mais ça demande, c'est quelque chose de grave de devenir un prêtre, n'est-ce pas ? À partir du moment où on est prêtre, on commence à commenter l'écriture sur l'embon, n'est-ce pas ? En principe, on ouvre l'évangile, on lit l'évangile et ensuite on explique. Et cette explication de l'écriture, c'est l'écriture elle-même qui est continuée. Bon, ça, on pourra encore parler, je vais pouvoir vous expliquer tout ça si vous avez des questions. Mais disons que c'est voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour la vie de l'Église. Eh bien, l'icône, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en plus, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait clair par les épîtres de saint Paul, il y a plusieurs textes. C'est-à-dire que celui qui contemple et qui vénère une icône, il s'identifie, il devient petit à petit semblable à celui qui est peint. Non seulement l'icône, elle doit, par sa sainteté, porter la présence de Dieu, comme les anges, hein, elle doit être pleine de la communion, elle doit donner la communion avec Dieu, mais en plus, elle représente ce que je dois devenir. Elle doit être le miroir dans lequel je vois mon être réel, mon être profond, puisque nous sommes tous appelés à être saints. Vous vous souvenez que saint Pierre dit « Soyez saints ». Comme votre Père Céleste est saint, c'est le Christ qui dit ça, et saint Pierre qui dit aussi, et c'est l'Évangile. Et donc, soyez saints, donc nous sommes tous appelés à la sainteté, et donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est la sainteté. Alors nous avons, si on a eu la chance de rencontrer un Starets, et un homme de Dieu, un homme vraiment sanctifié, on sait qu'est-ce que c'est, on sait quel est le but de la vie chrétienne. Comme disait saint Séraphin Motovilov. Mais tant qu'on n'a pas vu cette expérience de la lumière, tant qu'on n'a pas vu un saint, on n'a pas d'autre chose que l'icône et l'évangile. Donc, est-ce qu'on peut supporter de voir sur les murs les choses qu'on voit habituellement? C'est pas possible, c'est pas pensable. Que Dieu me pardonne, je veux dire, c'est un pot de vigue et c'est quelque chose de grand. Mais il faut être conscient de ce que signifie l'icône. Voilà. Et donc, pour peindre une icône, il n'est pas du tout indispensable d'être un saint, il n'est pas du tout indispensable de faire d'être extrêmement talentueux sur le plan artistique. Simplement, il faut être conscient de ce que c'est. Et avec humilité et avec amour, dire « Seigneur, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. » C'est-à-dire, s'il y a une icône qui est juste et sainte, une sainte image, hein, parce qu'avant... dire ça, tout était des images, hein, tout était des icônes. Donc l'icône se différenciait des autres représentations par le fait qu'on l'appelait sainte. Donc la sainte image, bon, c'est uniquement par la grâce de Dieu. parce que c'est quelque chose, c'est un miracle, vous connaissez. Je ne voudrais pas non plus être trop longue et vous faire attendre trop longtemps, mais vous connaissez tous l'histoire du roi Abgar, la première icône, non? Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est du temps du Christ, il y avait un royaume, le royaume d'Édès, qui n'était pas très loin du royaume des Juifs, dans lequel il y avait un roi, Abgar, qui était très malade, qui a entendu parler du Christ et des miracles opérés par le Christ. Et donc, il a envoyé une ambassade au Christ en lui demandant de venir le guérir. Et le Christ, qui approchait de sa passion, lui a dit « Non, je ne peux pas », a dit aux ambassadeurs « Non, non, je ne peux pas, mais je vais t'envoyer mon apôtre ». Il a envoyé Nathanaël avec, et il lui a envoyé deux choses. Il lui a envoyé une lettre et le mandilion. C'est-à-dire que, alors, bon, ensuite, on a raconté qu'il y avait un peintre qui essayait de saisir les traits du Christ et qu'il n'y arrivait pas. Ça, c'est tout à fait le reflet des querelles de l'iconoclasme dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, peut-être, c'est un récit authentique, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que, ne pouvant être présent auprès du roi Abgar, le Christ a pris un linge, l'a mis sur son visage et a imprimé lui-même sa face. Il a fait lui-même la première icône. Et il a envoyé à Abgar l'icône et la lettre. Il a écrit une lettre. Donc ça, c'est l'origine de la première icône. Donc, et on l'appelle l'oubrous, l'icône non peinte de main d'homme. Je ne sais pas exactement ce que signifie oubrous en slavon, mais en tout cas, c'est l'image non peinte de main d'homme. Et en fait, toute icône est fondamentalement non peinte de main d'homme. Parce que si on arrive à représenter comme il faut l'hypostase du Christ, c'est là toujours la miséricorde de Dieu, parce qu'il nous donne des petites choses dont on peut lui faire sacrifice, et ensuite, lui, en échange, il nous donne toute la plénitude de sa gloire et de sa grâce. Donc, on peut s'exercer à représenter un visage qui ressemble au Christ, avec la moustache, la barbe comme il faut, la longueur du nez comme il faut, etc. On essaye de faire ça très modestement, et lui, il met dedans son hypostase, sa personne. C'est pour ça que vous avez 1000 icônes du Christ, et la plupart de ces icônes, enfin beaucoup de ces icônes, sont pleines de la présence du Christ, et on le reconnaît tout de suite. Alors il y a aussi des icônes qui sont de moins bonne qualité, où il y a bien tous les traits caractéristiques du Christ, mais il n'est pas là, on ne le reconnaît pas. Par exemple, dans notre église, on a une icône qui nous a été apportée par Monseigneur Philarète de Minsk, une espèce de grande icône de l'image non peinte de Manon avec un fond vert, à côté de Sainte Matrone, sur la gauche. Et alors cette icône, je ne sais pas, je ne voudrais pas, comment dire, peut-être il y a quelqu'un à qui cette icône est très chère, je ne sais pas. Mais personnellement, je trouve que le Christ c'est pas très ressemblant. Il y a toutes les caractéristiques. Il y a la barbe, il y a la moustache, il y a le... Bon, tout y est comme il faut, la couleur des cheveux, mais c'est pas lui. Il n'a pas trouvé la ressemblance. Et comment est-ce qu'on peut trouver la ressemblance de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc, ça aussi, c'est une chose très importante pour les gens qui peignent les icônes, c'est que quand on peint, il faut être conscient qu'on fait un portrait, le portrait d'une personne qui est là devant nous. Une personne vivante, qui est là, qui est présente. Et donc, on peint d'après nature, on peint d'après cette personne. Et bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on prend toutes les icônes qu'on connaît, qu'on aime, beaucoup, une seule d'abord, ensuite plusieurs, puis petit à petit, on arrive tout doucement à cette ressemblance. Mais aussi, petit à petit, qu'est-ce que fait quelque chose tout à fait miraculeux à notre insu, c'est que petit à petit, à l'intérieur de nous-mêmes, on sent, il y a quelque chose qui nous dit ça oui, ça non, ça comme ça un peu instinctif, on tâtonne. Mais finalement, on a en nous l'image du Christ. Voilà. Et c'est un miracle, je veux dire, c'est quelque chose qui est... Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est... Voilà, ça c'est important pour peindre les icônes. C'est les choses les plus fondamentales. Être conscient de ce que ça représente, et être conscient qu'on peint une personne qui est vivante. Comme toutes les icônes de tous les saints. Le Christ dit, je ne suis pas le... Enfin, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, tous sont vivants. Donc ils sont là, ils sont avec nous. C'est juste que nous, on ne les voit pas, mais ils sont là. Mais d'ailleurs, on les sent, on les a avec nous dans notre cœur. Et ceux qui sont partis, notamment, ils sont là, ils appartiennent à cette communion qui est en Christ et qui est avec nous et qui est éternelle. Et bien sûr, l'icône, elle est provisoire, elle est pour ce monde, elle est pour... Parce qu'enfin, on n'a pas besoin des icônes. Après, les icônes, comment dire, sont pour cette vie maintenant. Après, il n'y aura plus d'icônes, on n'aura plus besoin des icônes matérielles. Et donc, elles sont très, très, très importantes parce qu'elles sont les gardiennes de la foi. Elles sont les gardiennes de la vie aussi. C'est-à-dire que l'icône, c'est très, très, très important et très significatif. Quand on voit une icône qui n'est pas juste, bon, alors il peut y avoir mille raisons pour lesquelles une icône n'est pas juste. Hein, c'est, mais toute possibilité. Mais une icône qui n'est pas juste, ça veut dire que la vie derrière non plus n'est pas très juste. Et par exemple, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'Église catholique de nos jours. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait passionnés par les icônes. Pas tellement au niveau des reproductions et des publications, ça y en a moins qu'avant. Mais en revanche, il y a beaucoup plus de gens qui payent les icônes et qui les aiment. Et je vois, je suis un petit peu ce qu'ils font depuis 10-15 ans. Et je vois que la qualité s'améliore sans arrêt. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui font des choses qui sont assez bien. Et c'est très très bon signe, si vous voulez. C'est pas la peine de leur dire, voilà, ben là c'est pas comme ça, ça il faut faire ci, ça va. C'est pas la peine. On sent qu'il y a une vie qui se développe et qui croît et qui devient de plus en plus juste. Et ensuite, les icônes justes, elles viendront d'elles-mêmes.
En fait, c'est un échange entre quelque part, entre des icônes et l'esprit, en fait.
Tout à fait.
Le Saint-Esprit.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est une demande de l'artiste. Oui. C'est la révélation de ses sentiments, de sa prière, et c'est la réponse de Saint-Esprit, justement, à la grandeur de la demande de l'artiste. Et peut-être c'est justement...
Oui, bien sûr. Ça veut dire... Mais comment te dire? Ça veut dire que c'est de plus en plus réel. Parce que notre demande, nos sentiments, si tu veux, sont pleins de nos passions. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on est sauvé si on confesse la vérité, hein? Parce que précisément, la vérité qu'on confesse, Dieu nous donne en fonction de cette vérité qu'on a choisi de confesser. Tu vois, comme tu dis, il y a un échange. Mais donc, si tu veux, ça veut dire aussi que le désir est de plus en plus réel, de plus en plus juste, de plus en plus vrai. Parce qu'on peut avoir, un grand désir de faire une belle icône, mais en fait, c'est un désir égoïste ou c'est un désir. Enfin, il peut y avoir plein de choses dedans. Il y a autant de cas de figure que de personnes. Mais petit à petit, la vie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'important? C'est l'humilité, en fait. Hein. Parce que c'est Saint Jean Climat qui commente, vous savez, l'évangile de. La fin de l'évangile, quand le Christ dit « Restez, je ne sais plus dans lequel c'est dans les synoptiques bien sûr, il dit « Restez à Jérusalem, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut ». Vous vous souvenez ça, hein? Et donc, Saint Jean Climat, il interprète ce passage et il dit « Qu'est-ce que c'est la puissance d'en haut ? C'est l'humilité ». Donc, c'est l'humilité qui appelle le Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir mille inspirations, hein, mais bon, il faut avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc c'est cette recherche de l'humilité, cette volonté de l'humilité, cette progression dans l'humilité qui fait que la vérité apparaît de plus en plus et se manifeste. Voilà. Donc, voilà, c'était pas du tout une introduction technique. Mais c'est, voilà, donc si vous voulez, ça, moi j'ai appris tout ça d'Ouspensky et je pense que c'est ça qui est le plus fondamental. Et donc, ce qui est important, c'est que l'icône elle-même, la peinture elle-même, est une prière. C'est pas des prières qu'on dit en plus, ou voilà, la vie spirituelle qu'on a en plus, et puis l'icône est séparée, et on fait la... Non, c'est dans l'icône même que se fait la prière et la transformation de la vie spirituelle aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi pour ça que c'est difficile. C'est-à-dire que Ouspensky disait pour faire un iconographe, il faut 15 ans. Donc 15 ans, c'est aussi pour faire un moine. Hein. On dit qu'à partir de la tonsure, il faut 15 ans pour arriver à une vie un peu stable. Donc voilà, il faut 15 ans. Il faut 15 ans ou plus ou moins dans les cas. Mais quand même, en gros, il faut beaucoup de temps. Précisément parce que, si l'icône doit vraiment manifester la transfiguration... Il faut que ce soit une vraie transfiguration. Il ne faut pas que ce soit une imitation. Il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que l'iconographe soit menteur. Il faut qu'il dise la vérité. Alors bien sûr, on dit la vérité chacun à sa mesure. On dit la vérité avec modestie, avec simplicité. Mais il faut que ce soit vrai. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après chaque icône, on, ce qui est à toi, est tenant de toi. Voilà. Donc, c'est ça. Et alors, donc, pour en revenir à l'art liturgique en général, c'est-à-dire que l'icône est un peu le enfin, comment dire, dans l'icône, on peut comprendre beaucoup de choses qui concernent tout le reste, bien sûr. Et donc, si c'est vraiment la grâce de Dieu qui agit dans le peintre, ça doit être vraiment pleinement la grâce de Dieu qui agit aussi dans les chantres, dans les chanteurs, dans les architectes, dans les orfèvres, voilà. Et donc, si c'est l'humilité qui appelle le Saint-Esprit, hein, pour que ce soit lui qui fasse les choses, eh bien, il faut que l'ego du peintre disparaisse. Je ne sais pas si vous savez, comment dire, quel exemple prendre de ce qui est vraiment pour que les hommes soient en communion complète avec Dieu sans intermédiaire, voyez, que les hommes rentrent en communion avec Dieu sans interférence. Bon, par exemple, comme deux planches de bois qu'on colle l'une contre l'autre. Bon. Alors, pour les coller sans intermédiaire, il faut des étaux. Hein, on les tient l'une contre l'autre, comme ça, il n'y a rien entre les deux. Mais si on met de la colle entre les deux, ou si on met beaucoup de colle, et bien plus on met de la colle, plus il y a une épaisseur, et moins les deux planches sont absolument immédiatement en contact. Et bien l'ego de l'interprète, quel qu'il soit, le chantre, le peintre, l'architecte, même le prêtre, tout va ensemble, c'est la même chose. Plus cet ego est gros, plus il empêche la communion entre Dieu et l'homme. Alors, dans un cas comme ça, on voit une belle peinture de Léonard de Vinci. Alors, on admire Léonard de Vinci, mais on n'est pas en relation avec la mère de Dieu ou avec le Christ. De la même manière, si on entend trop, par exemple, notre gentil chef de chœur Yuri Kiselgov, par exemple, qui était un homme charmant et, comment dire, très doué, très talentueux, mais il était tellement plein de lui-même, le pauvre, que c'était terrible, je veux dire, d'écouter la liturgie. Il fallait faire abstraction du cœur pour arriver à être en... Bon, j'exagère un petit peu, hein, mais quand même, c'était très, très difficile, parce que le pauvre, il chantait très bien, il avait une très, très belle... une technique parfaite, voilà. Et du coup, bon... alors, voilà. Mais ça n'empêche qu'il a quand même servi le Christ et que le Christ le bénit et l'aime, et voilà, et qu'on lui est très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu dommage, parce que c'est quelque chose qui, ça ralentit les choses, voilà. Donc de nos jours aussi, on a des icônes partout, et des icônes qui font leur effet, qui remplissent leur tâche sur le plan, de la vie liturgique normale. Bon, on commande des icônes, on peint des icônes, on fait, mais on perd du temps, voilà. C'est parce que c'est sans force, c'est sans ou avec peu de force, ou avec voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer que tout ça ait de la force, voilà. De manière à ce que les hommes soient sauvés. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, nous et les autres. Voilà.
Moi j'ai une question.
Je t'en prie.
Justement, par rapport aux icônes où il n'y a pas cette
force,
cette force, puisqu'on doit les vénérer, les honorer, confesser, tout ça. Peut-on quand même se dire, bon ben voilà, cette icône ne m'inspire pas du tout et j'ai pas du tout envie de...
Tu sais, c'est très très simple.
Alors je suis quand même obligée parce que c'est une icône et que je dois la respecter.
Non, il faut pas du tout que ce soit une obligation. L'obligation, c'est d'embrasser les icônes et d'accord. de faire le signe de croix devant. D'accord. Et de faire un poclone, et ça, d'accord. oui. Ça, c'est la vénération obligatoire, en quelque sorte, de l'Église. Bon. Mais... toutes les démonstrations d'amour dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est vraiment les icônes miraculeuses. C'est-à-dire qu'une icône, elle est miraculeuse de mille manières différentes. Par exemple, si vous regardez la Sainte Trinité de Saint André Roubloff, cette icône, elle est miraculeuse de toutes les manières. C'est-à-dire que c'est les couleurs et le dessin même lui-même qui est porteur de grâce. Qui est plein. Bon. Puis vous avez des icônes qui ont cette grâce de communion, qui vous mettent en communion, comme ça. Et puis vous avez les icônes qui font les miracles purement et simplement, c'est-à-dire on prie devant et puis du coup on est guéri. Voilà, ça c'est encore une autre manière d'être miraculeux. Ou les icônes qui répandent le miron, par exemple, le miron coule et le voilà. Donc tout ça c'est des manières différentes. Mais c'est vrai que, par exemple, un test, c'est quand on a peint quelque chose, quand on a peint une icône et que c'est fini et que spontanément on l'embrasse. Voilà. Parce qu'on oublie complètement que c'est pas son œuvre, c'est pas mon œuvre, c'est quelque chose d'autre. C'est la personne qui est là, qui est présente, et du coup, on l'embrasse. sans du tout que ce soit des extases mystiques. Mais si tu veux, c'est simplement quelque chose de tout simple, comme un enfant qui va...
D'amour.
Comme par exemple, un jour j'avais un petit médaillon avec des cheveux de mon père spirituel sur moi, et puis j'avais le frère d'une de mes filleules, le petit Jovan, qui avait c'était Anne. Je confonds deux événements. Et donc Anne était toute petite, elle a peut-être 4 ans ou 5 ans comme ça, et puis alors je me penche vers elle, et puis elle regarde mon petit médaillon avec les cheveux de père Serge, et puis elle me dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Alors je lui explique, c'est les cheveux du père Serge. Elle me dit « Ah oui, qui c'est ?» Ben, c'est un père, c'est un Starets. Ah, si tu veux, tu peux l'embrasser. Alors elle l'embrasse. Oh, comme il est gentil. Oh. Ça voulait dire qu'il y avait vraiment un contact, une communion vivante entre les deux. Voilà. Mais c'est ça. Je veux dire, un enfant qui embrasse un saint, bon, sur une icône, il est oh, comme il est gentil. Voilà, parce qu'il est là. Voilà.
D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que donc les catholiques peuvent être sauvés également, mais eux ne vénèrent pas les icônes, à part maintenant, peut-être certains.
Alors, écoute, moi, je ne sais pas que te dire. Je n'ai pas la science en ces matières. Je sais que les saints-pères, au moment de l'iconoclasme, disaient « Celui qui ne regarde pas l'icône du Christ, il n'est pas sauvé. Mm-hmm. » qui ne prie pas devant l'icône et qui ne vénère pas l'icône, il n'est pas sauvé. Mais il faut te dire que les empereurs iconoclastes ont été... ils mettaient la tête des iconographes sur les icônes, ils traient une autre icône et plein de pierres par-dessus pour écraser la tête. Ou bien ils brûlaient les icônes, en braise, et ensuite ils obligeaient les iconographes à mettre leurs mains dessus. Ils ont brisé la mâchoire de Saint Méthode, par exemple. Saint Méthode qui a réuni le rétablissement des saintes icônes. Il est toujours représenté avec un bandage autour parce qu'il lui avait brisé la mâchoire. Ou Saint Théodore Studite, par exemple, il a passé des années et des années, dizaines d'années dans des prisons absolument affreuses. Et il était fouetté d'une manière atroce régulièrement. Et son disciple qui était avec lui, il était obligé d'enlever la chair pourrie de son dos. Pour le soigner. Et puis ça recommençait. Bon. Ces gens-là, et Saint Méthode, ou bien c'est Saint Thérèse. Il a été emprisonné, si tu veux, il a été mis tout seul dans une cellule, dans une cellule qui faisait peut-être 1,50 m sur 80, avec deux malfaiteurs. Tu peux imaginer, un saint homme, un saint prêtre, avec deux voyous. Tu peux imaginer ce que ça peut être. Je veux dire, ils ont subi des choses. Bon, donc, ils sortaient de cette persécution, si tu veux. Donc, pour eux, c'est voilà, l'icône, la vénération de l'icône, elle a été achetée à ce prix-là. Tu vois. Donc, et ça, c'était pas seulement les iconographes, mais c'était les prêtres, les hiérarques, les laïcs. Par exemple, il y a une sainte Moniale en tout ça, une martyre en tout ça. Elle aussi, elle a été martyrisée pour les icônes. Ou sainte Théodosie, par exemple, sainte Théodosie, c'est la première martyre de l'iconoclasme. Parce que l'empereur avait ordonné, donc à sainte Sophie, au-dessus de la porte, il y avait, pas sainte Sophie, au-dessus du palais impérial, il y avait une icône du Christ, une grande icône du Christ. Et donc, l'empereur a envoyé un soldat pour décrocher cette icône. Et donc, sainte Théodosie était là, elle était tellement horrifiée par ce qu'il faisait qu'elle a tiré l'échelle, et l'homme est tombé et s'est tué devant le... Ah, bon. Et après, la foule, parce que les empereurs avaient aussi la foule quelquefois derrière eux, ils se sont précipités sur elle, ils l'ont lynchée, et finalement, ils lui ont enfoncé une corne de taureau dans la gorge. L'icône, elle vaut ça. Pardonnez-moi de vous dire des choses comme ça dures, mais je veux dire, c'est l'iconoclasme, ça a été horrible. Donc quand les pères disent, on ne peut pas être sauvé sans vénérer l'icône du Christ, parce qu'ils étaient passés par tout ça. Donc, autrement, le Christ est bon et miséricordieux, il sait quand on est dans un autre contexte, qu'est-ce qu'on aurait fait si on était dans le bon contexte, tu vois. Mais c'est vrai que ça, tout dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Par exemple, quelqu'un qui connaît l'existence des icônes et qui dit non, 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 il ne faut pas. Je connais par exemple un témoin de Jéhovah qui est absolument affreux, qui ferait tout contre les icônes. J'ai des doutes sur son salut éternel. Parce qu'il est tellement contre les icônes, tu sens qu'il y a quelque chose qui est... C'est l'idolâtrie, etc. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est diabolique derrière, complètement. Donc, les gens qui consciemment connaissent le poids et la confession orthodoxe des icônes et qui la refusent qui sont contre volontairement et consciemment, à cela, là, je ne sais pas du tout si c'est possible d'être sauvé. Ouais. Oui, oui, non, vas-y, vas-y, bien sûr, mais on s'arrête, hein, parce que c'est... Je veux dire, ça fait déjà, ben, une heure. Je ne sais pas, sauf si vous avez des questions.